Les séminaires du Collège de France.
Un grand merci pour l'invitation. Voilà, c'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de la génétique du diabète de type 2 aujourd'hui. Mais en gros, tout ce que je vais dire sur le diabète de type 2, c'est applicable à l'obésité. Donc, comme vous le savez sûrement, on parle vraiment d'épidémie mondiale. Vous voyez les chiffres très impressionnants du diabète dans le monde entier, comme vous le voyez. Et malheureusement, les chiffres ne cessent d'augmenter. On prévoit d'ici 2050 plus d'un milliard de diabétiques dans le monde. Donc c'est un problème majeur. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est encore une maladie qui se traite mal. On considère qu'environ 80% des patients qui ont un diabète de type 1 ou de type 2 sont maltraités. Donc ce qui nous pousse à continuer tous nos efforts de recherche. Et personnellement, j'utilise la génétique pour avancer dans la compréhension de la physiopathologie de la maladie, pour trouver des cibles thérapeutiques, des nouvelles cibles thérapeutiques plus efficaces afin de mieux traiter les patients. Alors, comme vous savez sûrement, le diabète est associé à des complications sur tout le corps, notamment complications rénales, complications neuropathies, c'est la première cause d'amputation. Et vous voyez les chiffres malheureux. Plus de 3 adultes diabétiques sur 4 vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le diabète a été responsable de 6,7 millions de décès en 2001, soit un décès toutes les 5 secondes. Et ça entraîne des coûts majeurs pour la société. Vous voyez, au moins 966 milliards de dollars de dépenses en santé, soit une augmentation de 316% au cours des 15 dernières années. Le problème aussi, c'est que le diabète de type 2, tout comme l'obésité, ce sont des maladies vraiment stigmatisantes. Ici, c'est une étude qui est parue en 2016. Il existe une stigmatisation négative associée au diabète de type 2 qui est perçue comme une maladie liée au mode de vie. Par exemple, en France, j'ai toujours été choquée, on appelle le diabète de type 2 le diabète gras. C'est typiquement français, c'est très stigmatisant. Donc on considère que ma patient devient diabétique juste parce qu'il a un mauvais mode de vie. Donc ça, c'est typiquement français, le mot diabète gras. Mais vous voyez le problème qu'il y a quand même en France par rapport au diabète de type 2. Donc vous voyez, 45% des patients considèrent qu'il y a une stigmatisation négative. Et puis vous voyez d'autres choses. Parce qu'elles ont un diabète de type 2, certaines personnes supposent qu'elles sont ou ont été en surpoids, comme je vous disais, avec le diabète gras. Parce qu'elles ont un diabète de type 2, certaines personnes les jugent sur leur choix alimentaire. Et le diabète de type 2 s'accompagne de culpabilisation et de honte. Il y a aussi une auto-stigmatisation des patients avec un diabète de type 2. S'accusent elles-mêmes d'avoir un diabète de type 2 chez 30% des patients. Et il y a 16% des patients qui considèrent qu'ils ont un traitement différent. Certaines personnes les traitent comme si elles étaient malades parce qu'elles ont un diabète de type 2. Alors, d'un point de vue pathophysiologique, au niveau diabète de type 2, donc ma présentation, désolée, j'ai oublié de vous le dire, sera focalisée sur le diabète de type 2. Je ne vais pas aborder le diabète de type 1 aujourd'hui. Le diabète de type 2, donc, c'est une maladie métabolique due à un problème, un dysfonctionnement des cellules bêta qui sécrètent l'insuline en interaction avec une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline ne peut pas faire son travail au niveau de ses tissus cibles, que sont le tissu adipeux, le foie et le muscle squelettique. Je ne vais pas aborder le diabète de type 1 qui, lui, est une maladie auto-immune, donc c'est une maladie complètement différente du diabète de type 2. Alors, comme je vous disais, en France, on appelait ça le diabète gras. Les patients sont mal considérés, alors que la composante génétique est très importante. Comment on sent cette composante génétique du diabète de type 2 ? Déjà, en regardant les jumeaux, les faux jumeaux versus les vrais jumeaux. Et vous voyez que la prévalence de diabète n'est pas la même chez les vrais jumeaux versus les faux jumeaux. Quasi 90% chez les vrais jumeaux, 30% chez les faux jumeaux. Donc là, tout de suite, on sent cette composante génétique. Aussi, dans le diabète de type 2, on a une espèce d'agrégation familiale. Je ne sais pas si vous connaissez des patients avec un diabète de type 2 dans votre entourage, mais généralement, ces patients, ils vont dire « Ah, mon oncle, il a aussi un diabète, ma nièce a un diabète, mon arrière-grand-mère avait un diabète. » Il y a vraiment une histoire familiale forte, généralement, dans le diabète de type 2. Il en est de même pour l'obésité. Donc là aussi, on sent cette composante génétique qui apparaît. Et puis aussi, dans certaines populations isolées, eh bien, il y a des pénétrances de diabète qui sont très très élevées. Par exemple, chez les Indiens Pima, vous voyez que la prévalence du diabète atteint plus de 70% chez les patients entre 55 et 64 ans, ce qui est énorme. En France, la prévalence est autour de 6% dans la population générale. Et la population donc Nauru, qui est une petite île du Pacifique, eh bien, est le pays avec la prévalence la plus élevée, autour de 30%. Donc là encore, dans ces populations isolées, ça nous fait dire qu'il y a une composante génétique élevée du diabète de type 2. Et finalement, ben voilà, ça c'est une des dernières études faites sur les jumeaux, sur les grandes études de jumeaux, monozygote versus dizygote. Et vous voyez que l'héritabilité du diabète, dans cette grande méta-analyse qui a analysé plus de 34 000 paires de jumeaux, eh bien l'héritabilité est de 72%. Donc on parle vraiment de maladie génétique. Bien sûr, l'environnement est là, puisque la composante génétique va s'exprimer au sein d'un environnement. Donc, les facteurs de risque du diabète de type 2 sont ici. Le facteur de risque principal du diabète de type 2, c'est l'âge. C'est une maladie extrêmement liée à l'âge. C'est un facteur de risque majeur. Il y a aussi la malbouffe. Il peut y avoir des problèmes aussi de sommeil et puis de la sédentarité, comme ceux qui sont les risques connus, les facteurs de risque connus environnementaux qui interagissent plus ou moins avec la composante génétique pour entraîner le diabète de type 2. Alors, il y a une hétérogénéité génétique du diabète de type 2, et ça, cette diapo, je l'aime beaucoup parce qu'elle peut être appliquée à toutes les maladies multifactorielles. Vraiment à toutes. Vous avez vu le cancer du sein, il me semble, la semaine dernière. Cancer du sein, c'est exactement la même diapo. L'obésité, la dyslipidémie, l'hypertension, tous ces traits suivent cette diapo avec les formes majeures qu'on appelle polygéniques, mais il existe aussi des formes monogéniques dans ces formes complexes de diabète de type 2 ici en l'occurrence, mais c'est pareil pour l'obésité, pareil pour la dyslipidémie, pareil dans Alzheimer, pareil de la maladie de Parkinson. Voilà, cette diapo peut être appliquée à toutes les maladies multifactorielles. Qu'est-ce que veut dire le terme polygénique ? Donc ça, c'est les formes les plus fréquentes. Pourquoi on appelle ça polygénique ? On considère que les formes fréquentes de diabète de type 2 sont dues à de multiples variants tout au long du génome qui, plus ou moins en interaction avec l'environnement, va entraîner la maladie. C'est pour ça qu'on appelle ça polygénique. Il existe aussi des formes monogéniques dans le diabète de type 2 qui sont plus rares. Pourquoi on appelle ça monogénique ? C'est une seule mutation est suffisante à entraîner la maladie. Et vous verrez dans les textbooks que, généralement, ces formes monogéniques sont plus sévères. On considère qu'elles sont plus sévères. Je vais vous expliquer après, plus tard, que ce n'est pas si vrai que ça. Mais dans l'esprit, c'est que ces formes sont plus sévères et elles se déclarent plus tôt dans la vie, généralement, ces formes monogéniques. Donc, je vais commencer par vous parler des formes monogéniques de diabète. Alors ici, c'est pareil, une diapo que j'aime beaucoup et qui est importante à comprendre. Ici, vous voyez sur l'axe des Y, l'axe des ordonnées, le risque sur le diabète, ou un autre ratio. Et ici, sur l'axe des abscisses, la fréquence des variants. Eh bien, on considère ici, ça, ce sont les variants qui sont impliqués dans les formes polygéniques de diabète. C'est-à-dire que ce sont des variants typiquement fréquents dans la population générale, donc généralement avec une fréquence supérieure à 1% dans la population générale, mais avec un effet faible sur le risque de diabète. C'est-à-dire typiquement, généralement, un variant associé au diabète va augmenter de 10% le risque de développer un diabète quand il est pris tout seul. Alors que les mutations pathogènes impliquées dans les formes monogéniques de diabète, ben là, c'est des variants beaucoup plus rares dans la population, voire privés. Okay, on est le seul porteur dans le monde, mais avec un effet extrêmement fort sur le risque de diabète de type 2. Donc typiquement, vous voyez, c'est un odds ratio supérieur à 5, ça veut dire si je suis porteur de la mutation, j'ai 5 fois plus de risque de développer la maladie. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes rapports d'effets et de fréquence dans la population. Donc ça, c'est important, mais je reviendrai dessus tout au long de ma présentation. Donc on va commencer par ces formes monogéniques de diabète, c'est-à-dire des mutations très rares dans la population, mais qui ont un effet fort sur le risque de maladie. Alors il existe trois grands types de diabète monogénique. Tout d'abord, les formes familiales, qu'on appelle les formes MODY, pour Maturity Onset Diabetes of the Young. Bon, c'est un acronyme qu'on a tendance un peu à oublier, c'est assez galvaudé. On tente à faire enlever cet acronyme qu'on trouve finalement pas très utile. Mais en gros, ces formes monogéniques dominantes, eh bien, on va les voir à toutes les générations dans une famille. Donc c'est une seule mutation hétérozygote, c'est-à-dire soit héritée de la maman, soit du papa, est suffisante à entraîner la maladie. Donc c'est des mutations monoalléliques, voilà, c'est les mutations monoalléliques qui sont suffisantes à entraîner le MODY. Donc c'est un diabète familial qui apparaît généralement autour de l'adolescence. Voilà. La définition dans les textbooks, c'est en dessous de 25 ans. C'est-à-dire que le diabète va se développer en dessous de 25 ans dans une famille suivant une transmission autosomique dominante. Vous avez un autre type de diabète monogénique qui, là, est le diabète néonatal. Alors ça, c'est un diabète qui apparaît dans les 6 premiers mois de vie. Donc généralement, c'est une forme sévère, hein, puisqu'il faut mettre le bébé sous insulinothérapie. Et dans le diabète néonatal, on trouve des formes dominantes, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une mutation hétérozygote ou monoallélique est suffisante pour entraîner la maladie, ou des mutations donc, qui suivent un mode récessif, où là, il faut hériter la mutation du papa et de la maman, ce qui va entraîner la maladie. Donc là, c'est des mutations homozygotes ou bialléliques. Et enfin, le diabète syndromique. Qu'est-ce que le diabète syndromique ? Eh bien, c'est un diabète qui va être associé à d'autres syndromes. Ici, par exemple, c'est le syndrome de Wolfram, où il peut y avoir des problèmes au niveau de surdité, des problèmes au niveau des yeux, etc. Donc là encore, c'est des formes extrêmement sévères. Et généralement, ces formes-là sont dites récessives, c'est-à-dire qu'il faut hériter du papa et de la maman. Donc c'est des mutations bialléliques qui entraînent ces formes-là de diabète. Et généralement, ces formes-là sont enrichies dans des populations consanguines. Alors ici, vous trouvez tous les gènes qui ont été identifiés impliqués dans les formes monogéniques de diabète. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'un seul. En 1985, j'ai retrouvé un résumé dans un abstract pour un congrès européen du diabète où ils pensaient qu'il y avait un seul gène impliqué dans les formes monogéniques de diabète. Ah ben vous voyez que finalement, il y en a beaucoup plus. Donc il y a beaucoup de gènes. Donc là, en fait, tous ces gènes jouent un rôle clé dans la cellule bêta-pancréatique qui sécrète l'insuline. Voilà, donc tous les gènes du diabète monogénique jouent un rôle clé dans la sécrétion d'insuline. On n'a pas trouvé ailleurs, donc là je parle vraiment du diabète de type 2. Et voyez, donc il y a beaucoup de gènes dans des facteurs de transcription qui sont localisés donc dans le noyau. Il y a aussi pas mal de gènes qui jouent un rôle dans le réticulum endoplasmique. Vous avez aussi des gènes qui codent des protéines qui sont à la membrane des cellules. Donc ici, c'est un transporteur du potassium. Et aussi, le gène de l'insuline, lui-même, il est muté, il est trouvé muté dans des formes monogéniques de diabète. Donc vous voyez que quasi tous les compartiments de la cellule bêta peuvent être impliqués dans les formes monogéniques de diabète. Ici, c'est une autre façon donc, de voir tous ces gènes. Ici, vous avez tous les gènes impliqués dans le MODY, donc les formes familiales de diabète. Ici, tous les gènes impliqués dans le diabète néonatal. Et ici, tous les gènes impliqués dans les formes syndromiques de diabète. Donc, comme je vous l'avais dit, la majorité de ces gènes suivent un mode récessif. Dans le MODY, c'est surtout un mode dominant. Et le diabète néonatal, un peu des deux. Et ce qui est important de noter, et ça, c'est vrai dans toutes les formes monogéniques de maladie, c'est qu'il y a une expressivité qui est variable. C'est-à-dire qu'une même mutation va pouvoir en fait entraîner soit une forme syndromique de diabète, soit un MODY, donc juste un diabète isolé, ou carrément un diabète néonatal. Donc c'est la même mutation qui peut entraîner ces différents phénotypes. On parle d'expressivité variable. Et vous voyez que HNF1-bêta, en l'occurrence, ce n'est pas le seul. Il y a plein d'autres gènes où on trouve une expressivité variable des mutations. Donc je vais vous montrer un exemple qu'on a publié il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans maintenant. C'est ce gène GATA6. GATA6 est un facteur de transcription qui joue un rôle clé dans le développement des cellules bêta pancréatiques et des îlots pancréatiques. On a trouvé cette mutation. NM, ça veut dire que c'est une mutation hétérozygote. Donc les ronds, c'est des femmes. Et carré, c'est un homme. Donc là, ici, vous avez les parents et les deux filles. On a trouvé une mutation hétérozygote très délétère dans GATA6 chez cette patiente. Donc ici, vous avez la notation nucléotidique. Donc vous voyez que c'est une délétion qui entraîne un frameshift, ce qu'on appelle un frameshift, avec l'apparition d'un chondrostop très précoce. Donc ça, c'est une mutation extrêmement délétère. Donc sous hétérozygote. Et vous voyez, la patiente, elle avait beaucoup de choses malheureusement. Elle avait une agénésie du pancréas. Une agénésie complète, c'est-à-dire une absence de pancréas. Donc on était obligé de lui donner, déjà elle était sous insulinothérapie, et en plus elle devait prendre des enzymes digestives. Donc vraiment un diabète très 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 fort, malheureusement, dès la naissance. Elle avait aussi un problème cardiaque, puisque GATA6 joue aussi un rôle dans le développement cardiaque. Donc elle a dû faire une chirurgie quasi dès la naissance, et avec plein d'autres choses. OK ? Donc ça, c'est un tableau clinique, malheureusement, extrêmement sévère. Sa sœur, on a testé ensuite sa sœur avait exactement la même mutation, mais vous voyez déjà avec beaucoup moins de choses associées. Elle a aussi eu une chirurgie cardiaque avant l'âge d'un an, mais son diabète s'est développé plus tardivement, à l'âge de 13 ans. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même tableau. Pourtant, on parle de la même famille, avec le même background génétique, avec le même environnement. Vous voyez, la même mutation va entraîner un tableau phénotypique totalement différent. Et elle n'avait pas d'agénésie du pancréas. Et enfin, on a testé les parents, on a testé la maman. La maman, sur le papier, elle n'avait rien. Dès qu'on a trouvé la mutation, on a dit « Vous allez voir votre diabétologue, vous allez voir votre cardiologue. » Le diabète, rien du tout. Elle a une glycémie parfaite. Elle n'a absolument pas de pancréas. Le pancréas n'est absolument pas atteint. Par contre, le cardiologue a relevé une petite valvulopathie. Donc vous voyez ici, non seulement on parle d'expressivité variable, mais là de pénétrance. La pénétrance est incomplète. C'est-à-dire que, alors que la mutation, il n'y a aucun doute sur la pathogénicité de la mutation, on sait que cette mutation entraîne un diabète, est censée entraîner un diabète néonatal avec une agénésie du pancréas. Mais vous voyez, la maman, aucun diabète, elle a une glycémie parfaite. Et c'est toujours un mystère, on ne sait encore pas pourquoi il y a cette pénétrance incomplète et cette expressivité variable. Mais c'est pour vous montrer que même dans les formes monogéniques, il y a une complexité et qui nous dépasse encore. Mais c'est important de le savoir, et il en est de même pour toutes les autres formes monogéniques d'obésité, de dyslipidémie, d'Alzheimer, etc. Vous aurez exactement le même souci d'expressivité variable et de pénétrance incomplète. Ici, c'est un autre exemple que j'aime aussi bien montrer, c'est dans le gène Cassengillon. Donc là, vous avez vraiment un exemple parfait d'une famille maudite, dans toute sa splendeur. Vous voyez, donc, quand le carré est plein, ça veut dire qu'il y a du diabète. Quand il est blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de diabète. Ici, il y avait un patient diabétique de type 1, donc il avait un diabète de type 1. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est un pré-diabète. Donc vous voyez, on a trouvé une mutation dans ce gène, KCNJ11, donc qui code un transporteur potassique. Cette mutation, au départ, elle avait été trouvée chez un patient avec un diabète néonatal. Nous, on a trouvé cette mutation dans cette famille maudite. Il n'y avait aucun des apparentés qui avait un diabète néonatal. Aucun. Là, cette patiente-là, elle a eu son diabète qui est apparu à l'âge de 16 ans. Ici, il est apparu à l'âge de 20 ans. Ici, 47 ans. Ici, 59 ans. Donc, vous voyez, normalement, cette patiente-là, qui porte la mutation KCNJ11, elle n'a pas un maudit. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement, dans les textbooks, il faut développer son diabète avant l'âge de 25 ans. Pourtant, c'est bien une mutation du maudit. Et vous voyez qu'ils ne sont vraiment pas traités pareil. Là, il y a un petit traitement oral. Ici aussi, sulfamide. Là, régime. Et cette patiente, elle a tout de suite été mise sous insulinothérapie. Donc vous voyez là encore une variabilité énorme de phénotype. Et vous voyez un oncle éloigné, bah lui, il est porteur de la mutation, il n'est jamais devenu diabétique. Donc là encore, dans cette famille, expressivité variable et pénétrance incomplète. Et on ne sait encore pas ce qui se cache derrière, on ne sait pas ce qui explique cette variabilité phénotypique. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des gènes actionnables. Et cette mutation, elle était actionnable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on trouve une mutation dans ce gène-là, on peut faire une médecine de précision. Donc KCNJ11 est un gène actionnable. Donc il y a vraiment un rôle crucial du diagnostic de ces formes monogéniques de diabète, puisqu'on peut changer réellement la vie de ces patients. Et notamment cette patiente-là, on a pu arrêter l'insulinothérapie et on a pu la traiter avec une simple prise orale de sulfamide. Donc elle ne dépend plus du tout d'insuline et maintenant elle prend un comprimé le matin de sulfamide et son diabète est réglé. Pourquoi? Parce que KCNJ11, comme je vous l'ai dit, code un transporteur potassique ATP dépendant dans la cellule bêta. Les patients qui portent la mutation, en fait, ont le canal qui reste ouvert. C'est ce qui s'appelle des mutations gain de fonction. Et le fait que ce canal reste ouvert, ça inhibe la sécrétion de l'insuline. Et dès qu'on donne des sulfamides à ces patients, eh bien, il y a un récepteur aux sulfamides au niveau de ce canal, et ça ferme le canal, ce qui va permettre en fait de stimuler la sécrétion d'insuline chez ces patients. Donc ça, c'est un exemple, mais il en existe plein d'autres dans les formes monogéniques de diabète. Pareil, les patients porteurs de mutations pathogènes dans les gènes HNF1-alpha ou HNF4-alpha, pareil, dès qu'on trouve une mutation dans ces gènes, on peut arrêter l'insulinothérapie et on les met sous sulfamide. Et ils sont très bien traités sous sulfamide, ils ont un contrôle de leur glycémie parfait. Encore un super exemple, c'est les mutations de la glucokinase. Donc comme vous pouvez vous douter, normalement, quand on développe un diabète précoce, il va y avoir des complications multiples avec le temps. Vous voyez, normalement, un diabète donc après 50 ans d'hyperglycémie, bah généralement, on a 36%. Chez 36% des patients, il y a des complications microvasculaires. Chez 10% des patients, il y a une protéinurie. Chez 21%, il y a une microalbuminurie, etc., etc. Et vous voyez que les patients déficients pour la glucokinase, ils ne développent absolument pas de complications. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez ces patients-là? Quand on trouve une mutation dans le gène de la glucokinase, c'est simple, on arrête leur traitement. Puisque leur traitement ne sert à rien. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas au traitement et en plus, ils ne développent pas de complications avec le temps. Donc, ils ont une hyperglycémie de plus de 50 ans, mais ils ne vont jamais développer de complications liées à leur hyperglycémie. Donc ça, c'est encore un mystère. On ne sait encore pas pourquoi. Comment ça se fait que ces patients-là qui ont une hyperglycémie ne développent pas de complications? C'est un énorme mystère. Mais on arrête le traitement et ils vivent très bien sans traitement. Ils ont leur hyperglycémie et tout va bien. Donc ça, c'est encore un super exemple de gène actionnable associé à une médecine de précision. Donc ici, c'est un résumé de tous les gènes actionnables qu'il y a dans les formes monogéniques de diabète. Donc vous pouvez comprendre que le diagnostic de ces formes est crucial pour leur prise en charge. Avant, j'ai compris que vous n'avez pas encore vu le séquençage de nouvelle génération, mais avant, donc pour tester ces gènes, on utilisait le séquençage Sanger. Le vrai problème du séquençage Sanger, c'est que bien, c'est laborieux, il y a beaucoup d'échecs, c'est pas très efficace, puis c'est cher quand même le séquençage Sanger. Ça coûtait à peu près 2000 euros, donc les bébés avec un diabète néonatal, généralement, bah forcément, on fait le diagnostic hein, chez ces bébés, ça coûtait plus de 2000 euros pour la sécurité sociale, et il fallait attendre plus d'un an. Vous vous rendez compte, un bébé sous insulinothérapie, etc., le diagnostic, là, il est majeur, puisqu'on peut arrêter l'insulinothérapie chez ces bébés pour les mettre sous sulfamide oraux, eh bien, il fallait quand même plus d'un an de travail, puisque bah, l'un de ces gènes, vous voyez, c'est avec les exons en bleu, vous voyez les exons en bleu, les introns en jaune, mais vous voyez que c'est énorme la taille de ce gène et ça demandait beaucoup, beaucoup de travail avec le séquençage Sanger. Malgré ça, Il y a plusieurs études américaines notamment et australiennes qui avaient montré que ce diagnostic des formes monogéniques de diabète est rentable pour la société. Il est rentable. Malgré les coûts avec ce séquençage Sanger, c'est clairement rentable pour la société. Et vous vous rendez compte qu'avec l'avènement du séquençage de nouvelle génération, ça l'est encore plus, comme vous pouvez l'imaginer, puisque ce séquençage de nouvelle génération a permis vraiment d'accélérer le débit et donc de diminuer les coûts. Vraiment, le séquençage de nouvelle génération, c'est la même philosophie que le séquençage Sanger, c'est vraiment basé sur la même chimie quasiment, mais tout a été fait, tout a été accéléré avec des systèmes de microfluidique et nanofluidique qui ont permis, mais vraiment, de décupler le débit de séquençage et donc les coûts. Donc il y a trois grandes applications de séquençage de nouvelle génération pour faire le diagnostic. Dans les hôpitaux notamment, ils séquencent des panels de gènes. Donc ils vont séquencer que les gènes impliqués dans les formes monogéniques de diabète par exemple. Donc le vrai problème c'est que si le patient a plusieurs maladies, par exemple notamment dans l'obésité, dans les formes sévères d'obésité, c'est souvent associé à des troubles neurodéveloppementaux. Et malheureusement, chez ces patients-là, on va d'abord faire le panel troubles neuro, et puis finalement, le panel obésité, on ne le fait pas ou on ne le fait jamais. Quoi. Voilà, on le fait parce que il y a une espèce de prioritisation par rapport à la maladie du patient. Donc ça, c'est un problème des panels. Et puis, s'il y a des nouveaux gènes qui sortent, il en sort toutes les semaines, notre panel est déjà dépassé. Et déjà, donc il ne peut jamais être à jour. Donc ça, c'est un problème. Nous, au laboratoire, ça fait depuis 2010 qu'on fait systématiquement du séquençage d'exome entier. C'est-à-dire qu'on va séquencer toutes les parties codantes du génome. Comme évoqué par Louise tout à l'heure, c'est à peu près 1 à 2% du génome. Et donc ça nous permet vraiment d'analyser tous les nouveaux gènes qui sortent et puis aussi d'en chercher d'autres chez les patients négatifs et puis après d'analyser toutes les maladies parce qu'un patient n'est pas égal à une maladie. Et notamment dans le diabète, on a souvent de la dyslipidémie associée, on a de l'obésité associée. Donc on peut analyser tous les gènes impliqués dans toutes les formes de maladies métaboliques, on va dire. Donc ça nous donne une certaine flexibilité et à être plus efficace. Et enfin, il y a ces derniers temps l'avènement du séquençage de génome entier. Donc là, le vrai goulot d'étranglement pour le génome entier, c'était vraiment l'analyse des données, parce que c'est énorme. Voilà, comme je vous ai dit, l'exome, c'est juste 1 à 2%, donc c'est beaucoup plus simple d'un point de vue informatique. Et là, finalement, il y a des nouveaux développements qui permettent d'accélérer finalement ces analyses, notamment grâce aux cartes graphiques utilisées dans les jeux vidéo. Donc c'est grâce aux jeux vidéo qu'on a pu vraiment maintenant mieux analyser les données de génome entier. On utilise une boîte Nvidia normalement, qui est une boîte spécialisée dans les jeux vidéo, cartes graphiques, et on a pu utiliser cette technologie pour accélérer nos analyses de données de génome entier. Donc on y va de plus en plus vers le génome entier, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce génome entier. Donc on y va de plus en plus, même si on est loin d'être dans une routine. À l'hôpital, on n'y est pas encore. Je pense au génome entier, il y a encore 10 ans, je pense, d'attente. Et ce qui est super aussi, c'est qu'au même moment de l'avènement du séquençage de génome entier, séquençage d'exome entier, séquençage de nouvelle génération, il y a eu aussi des critères très spécifiques pour dire si une mutation est pathogène ou variante signification incertaine, etc. Avant, c'est-à-dire là, cette publication, elle date de 2015. Mais avant 2015, chaque laboratoire avait un peu sa façon de faire. Donc il y avait des laboratoires très stringents, par exemple, ou des laboratoires qui avaient tendance à trouver des mutations pathogènes avec une fréquence plus importante. Là, depuis 2015, les choses ont été plus carrées grâce à l'American College of Medical Genetics and Genomics, qui ont vraiment écrit des guidelines clairs pour dire donc, si une mutation est pathogène ou pas. Donc, je vais vous montrer quelques critères. C'est des critères plus ou moins logiques, finalement, qu'on utilisait aussi avant, mais au moins maintenant, c'est carré, même si je vais vous dire certaines limitations par rapport à ces règles, mais on continue à s'améliorer. Donc, par exemple, un des critères forts, c'est si une mutation entraîne l'apparition d'un codon stop ou un frameshift avec une petite insertion délétion. Donc ça, c'est un critère fort. Un critère très fort, pardon. Aussi, par exemple, si la mutation a déjà été rapportée pathogène dans la littérature, bah ça, c'est un critère fort. Ou si on a des analyses in vitro à disposition, si on montre dans des cultures cellulaires que notre mutation a un effet délétère, et bien là, c'est le critère PS3, donc c'est un critère fort. Et puis après, il y a des critères modérés. Par exemple, si la mutation n'est pas rapportée dans les grandes bases de contrôle, donc maintenant, comme dit par Louise tout à l'heure, il y a des grandes bases de données qu'on peut utiliser, et notamment des bases de population générale, et bien si la mutation est absente de ces populations générales, bah c'est un critère modéré, etc. etc. Et après, il faut rassembler tous ces critères ensemble pour dire si la mutation est pathogène ou pas. Donc par exemple, pour dire si une mutation est pathogène, il faut le critère PVS1 et un critère modéré, etc. etc. Donc vous voyez, c'est quand même laborieux, mais vous sentez derrière qu'il y a tout un travail bioinformatique qui permet, et d'intelligence artificielle, qui permet d'automatiser ces critères. Donc il y a un énorme enjeu d'intelligence artificielle dans le diagnostic. C'était un des piliers de Cédric Villani quand il avait parlé d'intelligence artificielle il y a quelques années. Le diagnostic en fait partie, c'est un des grands enjeux de l'intelligence artificielle. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Je vous ai dit, ça c'est dans les textbooks. C'est qu'en gros, les formes communes, c'est-à-dire avec un diabète associé à de l'obésité assez tardif, on dit c'est forcément une forme polygénique. Et puis le diabète finalement plus précoce associé à un poids normal familial, c'est monogénique. Mais finalement, est-ce qu'on avait vraiment essayé de chercher à savoir si cette hypothèse était vraie? Est-ce que finalement, bah, chez du diabète tardif, il peut y avoir des formes monogéniques de diabète? On s'est posé cette question-là, grâce à l'avènement du séquençage de nouvelle génération, on a pu y répondre. On a séquencé quasi 10 000 individus. Donc on a fait une étude, cas témoins. Donc on a séquencé tous les gènes impliqués dans les formes monogéniques de diabète, chez 4 000 contrôles et 2 000 cas. Et les 2 000 cas, c'était tout venant, c'était du diabète de type 2, classique, qu'on voit à l'hôpital. Et aussi qu'on avait recruté au laboratoire. Donc c'est vraiment, on n'a pris aucun critère d'inclusion. Et on a essayé de voir, bah, finalement, est-ce qu'il y a des formes monogéniques de diabète chez ces cas. Donc on a séquencé, on a trouvé 1408 variants d'intérêt. Qu'est-ce que sont ces variants d'intérêt? Bah, c'est des variants qui sont codants, qui ont peut-être un effet délétère. Donc on a analysé tous les variants non synonymes, les mutations stop, etc., etc., et qui étaient rares. Voilà, notre critère, c'est mutation avec un potentiel intérêt est rare. Donc on a trouvé 1408, et après on a appliqué les critères ACMG, comme je vous ai montré, pour les 1408 variants rares qu'on avait identifiés chez nos cas et nos témoins. Donc voilà les critères, donc ça c'était par exemple une mutation dans le gène ABCC8, et on a appliqué les critères. Donc par exemple, cette mutation, elle n'est pas du tout pathogène, puisqu'elle répondait qu'à un critère de support, le critère de support PPP2. Donc là, cette mutation-là, qui était une mutation non synonyme, pas pathogène, donc on ne la garde pas. Mais là, par exemple, il y a une belle mutation pathogène, là, à la A1536V, parce qu'elle avait un critère strong, fort, elle avait été rapportée dans la littérature, et les programmes in silico disaient qu'elle avait un effet délétère, en plus du critère PPP2. Donc elle était pathogène, donc elle, après, on l'a analysée. Et ce que vous voyez ici, c'est quand même assez frappant, c'est qu'on a trouvé quasi 6% des patients avec un diabète de type 2 qui avaient des mutations pathogènes dans les formes monogéniques de diabète. Et vous voyez aussi ça, c'est qu'il y avait 2,7% des contrôles qui portaient aussi des mutations pathogènes. Nous, ça ne nous a pas surpris, parce que comme je vous ai dit, la pénétrance est incomplète. Donc, ce n'est pas surprenant de trouver des contrôles. Mais vous voyez qu'il y a quand même un bel enrichissement, 5,6% versus 2,7%. Et ensuite, ce qui était intéressant pour nous, c'est que ça touchait des gènes actionnables. Donc, chez 3,5% des patients, normalement, on aurait pu faire une analyse, on aurait pu changer leur traitement, on aurait pu avoir un effet sur leur traitement. Et ensuite, on a répliqué nos données avec la UK Biobank. Comme dit, voilà, UK Biobank, c'est une banque incroyable où on a accès. Bah, ici, à l'époque, on avait accès à 35 000 exomes. Aujourd'hui, on a accès à 500 000 exomes avec la UK Biobank. Et on a utilisé d'autres bases de données ouvertes, donc publiquement accessibles, pour pouvoir répliquer notre étude dans d'autres études avec des backgrounds différents, avec une ethnie différente. Alors ensuite, on s'est quand même amusé à voir le phénotype de ces patients. Est-ce que finalement ces patients étaient plus maigres ou est-ce qu'ils, par exemple, ils avaient une histoire familiale différente, etc. Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on aurait pu détecter l'effort monogénique que sur des critères cliniques? La réponse n'est pas évidente. Parce que vous voyez que concernant l'indice de masse corporelle, il n'y avait que deux unités de masse corporelle qui étaient différentes entre les porteurs versus les non-porteurs. Donc là, on s'est focalisé que sur les patients diabétiques. Mais avec deux unités de masse corporelle, vous pouvez bien 2 kg par mètre carré. Vous ne pouvez pas baser des critères cliniques sur une différence comme ça. Ce n'est pas le jour et la nuit. C'était certes significatif, mais avec un effet très très faible. Aussi, l'âge au diagnostic. Est-ce que finalement, les porteurs ont développé un diabète plus précoce? La réponse, c'est oui. Mais là encore, avec des effets, c'était 45 ans en moyenne, l'âge de développement. On est très très loin du textbook. Hein. Textbook, c'était 25 ans. Là, on est à 45 ans. Donc, on passe complètement à côté. Après, on a analysé l'histoire familiale. Et là, l'histoire familiale, on n'avait aucune différence. Vous voyez, la p-value n'était pas significative. Et là, moi, je n'étais pas surprise de voir ça, parce que comme je vous ai dit, de toute façon, on a 70% d'héritabilité du diabète de type 2. Donc déjà, même dans les formes dites polygéniques, l'histoire familiale est déjà énorme. Et là, vous voyez, ce n'était pas significatif. Il y a une petite tendance quand même, mais qui n'était pas significative. Et enfin, on a voulu voir s'ils étaient plus traités ou pas nos patients avec l'effort monogénique. Donc la réponse, oui, ils étaient plus traités sous insulinothérapie et sous d'autres traitements. On a malheureusement vu qu'il y avait 67% des patients qui portaient donc un variant pathogène en HNF alpha qui était traité sous insuline. Donc ils auraient pu bénéficier d'une médecine de précision. Et on a trouvé que 82% des patients porteurs pathogène dans le gène de la glucokinase étaient aussi traités. Donc eux, normalement, on aurait dû arrêter. On aurait pu arrêter le traitement chez 82 des patients porteurs de mutations pathogènes de la glucokinase. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas pu faire, on n'a pas pu appliquer une médecine de précision dans ces cohortes, puisque c'était des cohortes très anciennes, dont certaines étaient anonymisées. Donc on ne pouvait pas remonter aux patients. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu refaire une étude, mais là, en temps réel. Et maintenant, dès qu'on trouve une mutation, eh bien, on change de traitement. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On a fait deux études en parallèle, l'une avec Nicolas Paco au CHU de Liège. On a séquencé tout le département de diabétologie du CHU de Liège, toute la file active. Donc, c'est à peu près 3500 patients. Et chez ces patients, on a trouvé 8 à 10% des cas avec effort monogénique de diabète dans ce service de diabétologie. Donc, je le dis fort, les formes monogéniques de diabète, ce n'est pas des maladies rares. Il ne faut plus croire que monogénique égale rare. Ce n'est pas vrai. Certes, c'est plus rare que les formes polygéniques, les formes complexes, mais les formes monogéniques, ce n'est pas des maladies rares. On est à 8 à 10% des cas avec un diabète de type 2 qui ont en fait des formes monogéniques de diabète. Et par contre, on a aussi séquencé des formes atypiques où là, le médecin sent qu'il y a quelque chose chez le patient. Donc ça, c'est une collaboration avec Pierre-Henri Ducluseau à Tours. Et là, dès que le docteur sent qu'il y a une forme atypique, eh bien, on passe à un taux de diagnostic à 15%. Voilà, donc on enrichit le diagnostic quand le patient est mince, il développe un diabète autour de 20 ans, il a une forte histoire familiale, eh bien, on passe à 15%. En termes de diagnostic. Mais si on prend du tout venant, on est entre 8 et 10%. Donc, bien sûr, on continue ces études et on essaye surtout de voir après l'impact économique afin vraiment de développer au mieux ces diagnostics puisqu'on pense vraiment que c'est un enjeu de santé publique majeur. Et donc, on est en train de voir l'impact à la fois clinique et économique de ce test fait de manière systématique. Et moi, personnellement, je pense que tous les patients qui sont diagnostiqués avec un diabète de type 2 devraient être testés. Puisque maintenant, bah, c'est des coûts dérisoires par rapport au coût que... Un patient sous insulinothérapie en France, c'est 10 000 euros par an. Au moins entre 10 000 et 15 000 euros par an. Donc vous imaginez le coût d'un séquençage face à ça. Donc voilà un peu pour résumer. En gros, on enrichit notre diagnostic chez des patients qui développent un diabète précoce, chez des patients qui sont minces, qui sont normopondéraux, chez les Européens, parce que malheureusement, comme l'a dit Louise tout à l'heure, les études génétiques se sont avant tout focalisées sur les populations européennes. Et donc, bah, finalement, ces formes monogéniques, on les trouve avant tout dans les populations européennes, mais parce qu'on n'a pas investigué les autres populations. Et ça, c'est un énorme travail qu'il faut faire. Je ne pense pas qu'il n'existe pas de formes monogéniques chez les non-européens, c'est juste qu'on ne les a pas investiguées. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, on essaye d'y travailler au mieux au laboratoire. Et aussi, bah, voilà, quand il y a une histoire familiale autosomique dominante qui semble autosomique dominante, là encore, on enrichit notre diagnostic. Mais dans du tout venant, eh ben, ce diagnostic n'est pas nul. C'est-à-dire que chez des patients qui développent un diabète à 80 ans avec un indice de masse corporelle au-dessus de 30 et chez les non-européens, il peut aussi exister des formes monogéniques de diabète. Donc maintenant, je vais passer aux formes polygéniques qui, elles, sont un peu plus complexes à appréhender. Pourquoi elles sont plus complexes ? Ben, comme je vous ai dit, c'est qu'on considère que c'est de multiples variants qui vont entraîner la maladie et il faut prendre en compte le mode de vie, l'impact environnemental. Et ça, c'est très, très compliqué à faire. C'est encore compliqué en termes épidémiologiques de comprendre bah, comment le patient se nourrit. Rien que ça, c'est très, très compliqué. Alors, il y a aussi, là encore, de l'intelligence artificielle. Il y a des nouvelles études où les patients, en fait, prennent en photo les assiettes et puis de ça, on peut savoir le nombre de calories, par exemple, de manière plus carré, parce que finalement les questionnaires ont beaucoup de défauts et c'est ce qui entraîne aussi la complexité de l'étude de ces maladies. Donc concernant ces maladies, avant 2007, il n'y avait aucun variant qui avait été trouvé impliqué. Alors que le diabète monogénique, j'ai oublié de vous le dire, le premier gène du diabète monogénique a été découvert en 1992. Donc ça fait depuis longtemps qu'on connaît ces formes monogéniques de diabète. Concernant les formes polygéniques, rien n'a été trouvé de manière robuste avant 2007. Donc c'est pour vous montrer un peu la complexité. Et finalement, qu'est-ce qui a permis un peu de déverrouiller tout le problème ? Eh bien, ce sont ces puces de génotypage dont a parlé Louise. Donc basées sur les études HapMap, toutes ces grandes études ont permis de cartographier les variants fréquents dans la population générale. Et en gros, qu'est-ce que c'est cette étude-là ? Donc GWAS pour Genome-Wide Association Study. Donc ça s'appelle en fait en français une étude d'association pangénomique basée sur ces puces de génotypage. Donc qu'est-ce que l'hypothèse de l'utilisation de ces puces de génotypage ? C'est qu'une maladie commune comme le diabète de type 2 est due à des variants fréquents dans la population générale. Et grâce à ces puces, eh bien, on a pu passer ces puces chez des cas versus des témoins. Et dès lors qu'un variant bah, se trouvait plus fréquent chez les cas versus les témoins, eh bien, ça veut dire que c'est un variant du diabète de type 2. Donc ces études d'association pangénomique ont été extrêmement successful. Donc, j'ai plus le mot en français. Mais elles ont été très, très efficaces pour identifier de multiples variants associés au diabète de type 2. Alors là, je vais vous montrer, donc voilà. Donc, je vous rappelle cette figure. Donc là, on parle de ces variants-là, OK ? Donc ces variants, ou SNP, pour Single Nucleotide Polymorphisms, c'est des variants très fréquents dans la population, mais qui ont un effet faible sur le risque de maladie. Et donc, bah ici, c'est des sortes de figures qu'on voit souvent dans les publications de GWAS. Ça s'appelle des Manhattan plots, parce que oui, ça ressemble comme à la skyline de Manhattan. Donc ici, en fait, sur l'axe des abscisses, vous avez les chromosomes, et ici, vous avez la p-value. Donc en gros, moins log 10 de p-value, ça veut dire qu'ici, la p-value d'association avec le diabète de type 2. Donc là, ça veut dire qu'on a 10 moins 50, 10-100, 10-150, 10-200. Donc c'est des associations extrêmement fortes avec le diabète de type 2. Les p-values sont extrêmement basses, mais avec des effets faibles. J'y tiens. Donc chaque point représente un SNP qui a été trouvé par les études d'association pangénomique du diabète de type 2. Et je me suis amusée, donc ça c'est pour une revue, je me suis amusée après à mettre tous les gènes qui étaient des gènes candidats. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces mutations sont avant tout non codantes. C'est des mutations fréquentes dans la population générale. Généralement, ce sont des SNP qui sont dans des zones intergéniques ou dans des zones introniques. Donc généralement, ce sont vraiment des variants non codants en très très grande majorité. Et là, je me suis quand même donc amusée à mettre les gènes qui étaient situés juste à côté. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plein de gènes du diabète monogénique. Donc c'est marrant, hein, on touche quand même la même physiopathologie. C'est-à-dire, vous voyez plein de gènes du diabète monogénique qui ont été trouvés par GWAS. Donc ça, c'est amusant. Mais ce n'est pas du tout le même mécanisme. Hein, puisque là, on parle, comme je vous ai dit, on ne parle pas de variants rares à effet fort, c'est-à-dire dans des régions codantes. Là, on parle de variants dans des zones non codantes, avec des effets beaucoup plus faibles d'un point de vue fonctionnel. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis le début, je vous dis, ouais, bah, ces SNP, ils ont un effet faible et tout sur le risque de maladie. Mais si on les agrège ensemble, c'est-à-dire que il y a des patients, malheureusement, qui vont accumuler ces SNP de diabète de type 2 et qui se retrouvent, en fait, avec un risque très, très fort sur le diabète de type 2. Mais là, on parle de très peu de patients. Voilà, là, par exemple, c'est 0,05% des patients qui se retrouvent, en fait, dans des sphères monogéniques. Parce qu'ils ont accumulé tous les SNP associés au diabète de type 2 et ils se retrouvent finalement avec un risque très très fort. Et du coup, dans la famille, il y a un risque très très fort de développer un diabète de type 2 puisque le risque est multiplié par 5. Donc quand on combine tous ces SNP, là, il peut y avoir un effet fort sur le risque de diabète. Alors, ça, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, c'est que ces SNP, ils sont enrichis dans des zones enhancers des îlots pancréatiques, les zones amplificateurs, comme mentionné par Louise tout à l'heure. Donc, c'est clairement, dans les formes polygéniques de diabète, on a aussi cet aspect îlot pancréatique qui a été après redémontré. C'est-à-dire, clairement, la composante polygénique du diabète de type 2, c'est avant tout les problèmes de sécrétion d'insuline et de développement au niveau des îlots pancréatiques. On n'a absolument rien trouvé au niveau de la résistance à l'insuline. Donc vous voyez, le diabète gras, il est loin quand même. Hein. Parce que là, vraiment, on est sur un problème de dysfonction des îlots pancréatiques. On n'est pas sur un problème de résistance à l'insuline au niveau des muscles, du tissu adipeux et du foie. Voilà ce que nous a appris les GWAS. Par contre, le vrai problème des GWAS, c'est que c'est compliqué en termes physiopathologiques. On est un peu sur notre faim. Parce que oui, on trouve plein de SNP associés au diabète de type 2. Vous avez vu, on en a trouvé, dans le diabète de type 2, on en a trouvé plus de 1000. C'est un énorme succès des généticiens. Mais le vrai problème, après, c'est que c'est dur de tout comprendre en termes physiopathologiques. C'est très frustrant. L'un des problèmes, donc mentionné par Louis, c'est que ces variants sont en déséquilibre de liaison. Donc, association ne signifie pas causalité. On ne sait pas quel est le coupable. On ne sait pas, finalement, où est le problème, après, d'un point de vue physiopathologique. Par exemple, ici, donc c'est un exemple qui a été publié dans la population asiatique. Donc c'est un GWAS fait chez les Chinois. Et c'est ce SNP-là qui a été trouvé par GWAS. Donc voilà, comme tout à l'heure, chaque losange représente un SNP. Et donc c'est ce tag SNP, ou SNP porte-drapeau, qui a été trouvé par GWAS, associé au diabète de type 2. Mais vous voyez, le vrai problème, c'est que ce SNP, il est en très très fort déséquilibre de liaison avec tout cela là. Ça veut dire que tous ces SNP-là ont le même statut, avec la même fréquence, et donc sont tous associés au diabète de type 2, en fait. Lui, c'est le SNP porte-drapeau, mais en fait, tous ces SNP-là sont tous associés au diabète de type 2. Et dans ce cas-là, où est le coupable? Donc, il y a quelques méthodes statistiques pour trouver le coupable, mais tout de suite, on perd en puissance. Enfin, c'est très très compliqué de faire ces analyses statistiques de fine mapping, qu'on appelle, au refinement, je ne sais pas en français. Et là, par exemple, dans ce papier que j'ai pris, eux, ils ont dit « Ah, finalement, le SNP causal, c'est celui-là, parce qu'il est situé dans un enhancer, encore, donc une zone amplificateur du gène ZFAN-D3. » Et en fait, quand ils ont monitoré l'effet de ce SNP dans des cellules, ils ont dit « Ah oui, ce SNP a un effet. » Mais le vrai problème, quid des autres ? Si on n'analyse pas l'effet des autres, on ne peut pas dire aussi. Enfin, ça se trouve, c'est tout le bloc qui a un effet. Donc ça, c'est très, très compliqué à appréhender d'un point de vue physiopathologique. Et comme je vous ai dit, nous, notre but, c'est d'utiliser la génétique pour améliorer la vie des patients. C'est-à-dire, nous, on veut trouver des nouvelles cibles thérapeutiques. Donc quand on a ça, on n'est pas très content. Et puis, comme je vous disais, l'effet est faible. L'effet est faible. Donc monitorer ça dans des modèles in vitro, mais on perd en sensibilité. Nos modèles in vitro, comme vous pouvez vous douter, on modélise des variants dans des cellules, et malheureusement, la sensibilité, on a beaucoup de problèmes. Les GWAS ont été très très puissants parce qu'ils ont été faits. Le dernier GWAS a été fait chez plus d'un million de personnes. Donc on a une puissance statistique qui est énorme. Mais dans des modèles in vitro, on n'a pas cette puissance-là du tout. Du tout, du tout, du tout. Et donc c'est très très dur d'analyser l'effet de ces signaux dans des modèles in vitro. Donc c'est pour ça, moi, depuis quelques temps, depuis longtemps maintenant, je m'intéresse aux variants rares, mais associés à des formes communes de diabète de type 2. C'est ce qu'on a appelé le diabète oligogénique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que du coup, ces formes-là, notre hypothèse de base, c'est que ces formes oligogéniques seraient dues à plusieurs variants rares, mais aussi, bien sûr, en prenant en compte le background polygénique. Qu'est-ce qui nous a permis de répondre à cette hypothèse ? C'est le séquençage de nouvelle génération. Parce que pour aller choper ces variants, il faut séquencer, puisqu'ils sont rares. Donc là, on ne peut pas utiliser les puces ADN dont je vous ai montré tout à l'heure. Les puces ADN, c'est pour les variants fréquents. Donc là, pour aller chercher ces mutations-là, il faut séquencer déjà beaucoup d'individus. Et il faut donc analyser tous les nucléotides pour aller choper des variants rares. Et donc ça, on a pu le faire grâce au développement du séquençage. Alors on avait fait une étude preuve de concept après avoir découvert ce gène par une étude GWAS. Ce gène, qu'est-ce que c'est ? C'est le récepteur 2 à la mélatonine. Et nous, ce gène, il nous plaisait bien parce que déjà, le récepteur 2 à la mélatonine, c'est un récepteur couplé aux protéines G. Récepteur couplé aux protéines G, c'est les molécules préférées des boîtes pharmaceutiques. C'est génial pour développer, c'est très très efficace. Donc les récepteurs couplés aux protéines G, c'est les cibles clés des boîtes pharmaceutiques. Donc ça, c'est déjà une première chose qui nous plaisait. Et puis, donc mélatonine, vous connaissez, c'est l'hormone du sommeil, l'hormone anti-jet lag, quand on revient des États-Unis. Eh bien, il y a des associations très très fortes entre le travail de nuit et le diabète de type 2. C'est clair et net, les études épidémiologiques ont montré par exemple que les infirmières qui travaillent de nuit ont plus de risques de développer un diabète de type 2. Et puis aussi, par exemple, une pinéalectomie, c'est-à-dire une ablation de la glande pinéale qui sécrète la mélatonine, induit une augmentation de la glycémie chez le rat, par exemple. Et puis il y a plein de modèles de souris autour du cloque, qui sont associés à un diabète de type 2. Donc nous, ça nous plaisait ce lien entre rythme circadien et diabète de type 2. Donc on a voulu analyser le gène MTNR1B sous cette hypothèse oligogénique. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a séquencé plus de 7000 individus pour aller chercher des variants rares avec potentiellement un effet fort sur le risque de diabète. Donc on a détecté 36 variants rares chez plus de 7000 individus. Et ensuite, on a fait une investigation fonctionnelle, in vitro, de tous ces variants. Et après, on a trouvé que seuls les variants perte de fonction, c'est-à-dire ayant un effet délétère sur l'activité du récepteur couplé aux protéines G en réponse à la mélatonine, étaient associés à une augmentation du risque de diabète de type 2. Donc là, de l'association, on est passé directement à la causalité. C'est qu'en gros, si on a un récepteur qui est défectueux, on a une augmentation forte du risque de diabète de type 2. Et on a été contents parce que une année plus tard, on avait trouvé cette étude dans le JAMA qui allait un peu dans notre hypothèse, qui montrait que chez les patients qui avaient une sécrétion de mélatonine plus basse, eh bien, ils avaient plus de risques de développer un diabète de type 2. Donc ça allait dans le sens de notre étude. Donc c'était le premier gène dans ces formes oligogéniques de diabète. Et bah, vous pouvez vous rendre compte que là, on touche vraiment à la causalité et on ouvre des perspectives en termes physiopathologiques, pourquoi pas, de développer, de repositionner des drogues dans un cadre de nouveau développement de cibles thérapeutiques. Donc depuis, il y en a eu plein d'autres, vous voyez. Donc il y a eu plein d'autres gènes qui ont été identifiés, dont des gènes d'ailleurs impliqués dans les formes monogéniques de diabète, par exemple HNF1-alpha. Donc HNF1-alpha, il y a des mutations pathogènes d'un HNF1-alpha qui sont en fait associés à du diabète oligogénique, c'est-à-dire avec un odds ratio qui ne sont pas dans les sphères monogéniques, mais quand bien même, on trouve aussi ce gène dans les formes oligogéniques. Donc c'est pour vous montrer un peu tout ce continuum. HNF1-alpha, finalement, il était là, et puis il était aussi là. Je vous rappelle, il y avait un SNP à côté d'HNF1-alpha qui était associé au diabète polygénique. Donc c'est pour vous montrer le continuum physiopathologique, mais avec des mécanismes d'action génétique qui sont différents, à différents niveaux. Parce que la mutation ici, bah, elle est moins délétère que les mutations HNF1 qui sont localisées là. Et là, bah, elles le sont encore moins, parce que là, je vous parle de variants non codants d'HNF1-alpha, autour de HNF1-alpha, qui sont associés aux formes polygéniques de diabète de type 2. Mais vous sentez quand même qu'il y a la même physiopathologie derrière, mais pas le même mécanisme génétique. Je vais vous parler donc d'une histoire récente, donc une nouvelle histoire associée à une nouvelle forme oligogénique de diabète de type 2 qu'on a fait il n'y a pas longtemps au laboratoire. On était intéressé par le lien entre utilisation d'opioïdes, donc les addictions à l'opium notamment, et le risque de diabète de type 2. C'est quelque chose qui a été très très documenté dans les années 70. Vous voyez, il y a plusieurs New England Journal of Medicine qui ont clairement montré un lien entre l'addiction longue à l'opium et notamment la suppression de l'appétit, diminution de l'indice de masse corporelle, mais une augmentation du risque de diabète de type 2. Donc vous voyez, c'est assez bizarre, c'est en dichotomie par rapport à l'obésité. C'est-à-dire que c'est associé à une diminution de l'obésité, mais pourtant ça augmente le risque de diabète de type 2, et notamment aussi une diminution de la sécrétion d'insuline. Donc on était assez omnubilés par ça. Il existe trois récepteurs aux opioïdes qui sont extrêmement documentés dans la bibliographie dans PubMed. Le plus connu, c'est le mu opioïde récepteur. J'ai oublié de mentionner, on est intéressé par ces récepteurs aussi parce que c'est des récepteurs couplés aux protéines G, donc des cibles thérapeutiques privilégiées. Donc le plus connu, c'est le mu, le MOP, mu opioid receptor. Pourquoi c'est le plus connu? Parce que c'est vraiment le récepteur du fentanyl et de la morphine. Généralement, c'est vraiment le récepteur qui est le plus analysé, c'est vraiment le récepteur privilégié du fentanyl, de la morphine, etc. Et vous voyez, bah, plus de 17 000 articles dans PubMed. Il y a deux autres opioïdes récepteurs qui sont un peu moins référencés, le kappa et le delta. Et je vous ai mis le GLP-1 récepteur qui est très connu en ce moment avec le Wegovy, les traitements anti-diabète, etc. Vous voyez qu'il est loin derrière par rapport aux opioïdes récepteurs. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment des récepteurs qui sont très très documentés. Et comme je vous ai dit, comme tous les GPCR, c'est des cibles thérapeutiques privilégiées. Vous voyez, là, ici, ce qui vise les opioïdes, il y a beaucoup, beaucoup de traitements déjà développés qui visent le pathway des opioïdes et de ces récepteurs. Et nous, ce qui nous intéressait, on s'est surtout intéressé au delta. Pourquoi? Parce que le delta, il est aussi exprimé dans le pancréas humain. Alors que les autres, le kappa et le mu, sont vraiment limités au cerveau, eh bien le delta, il est aussi exprimé dans le pancréas. Donc on s'est dit, allez, on va essayer d'analyser ce gène de plus près parce qu'il nous plaît bien. Donc on a séquencé quasi 7000 individus, donc par du séquençage de nouvelle génération. On a fait vraiment la même stratégie que pour le récepteur de la mélatonine. On a trouvé 34 variants rares, codants. Et ensuite, on a fait une analyse fonctionnelle. Donc, je ne vais pas vous dire les détails de ces analyses fonctionnelles, mais en gros, on a regardé si les variants avaient un impact sur l'activité du récepteur in vitro. Et vous voyez qu'on a trouvé 12 variants rares perte de fonction et 7 variants gain de fonction, c'est-à-dire qu'ils augmentent l'activité du récepteur en réponse aux opioïdes. Et ensuite, on a fait une analyse d'association. Donc, on a analysé l'effet de nos variants perte de fonction sur le diabète de type 2 et sur l'indice de masse corporelle. Et pour ce faire, on a utilisé notre étude, mais après, on a utilisé la UK Biobank et d'autres études pour répliquer nos associations. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les variants de gain de fonction fonctionnaient un peu comme l'addiction à l'opium. C'est-à-dire qu'ils diminuaient l'indice de masse corporelle et ils diminuaient le risque d'obésité tout en augmentant le risque de diabète de type 2. Alors que les mutations perte de fonction, eh bien, c'était un effet inverse. C'est-à-dire les mutations perte de fonction augmentent l'indice de masse corporelle mais diminuent le risque de diabète de type 2. Donc, on a supposé que ce delta opioïde récepteur était un lien majeur entre les opioïdes et le métabolisme, l'homéostasie métabolique. Ensuite, on a essayé de comprendre un peu pourquoi OPRD1 était passé sous les radars depuis tant d'années. En utilisant des données de RNA-seq, c'est du séquençage de nouvelle génération, donc on séquence l'ARN au lieu de séquencer l'ADN, dans des îlots humains et des îlots de souris, et en fait, on se rend compte déjà que, comme on le pressentait, donc OPRD1, c'est-à-dire le delta, c'est le seul qui est fortement exprimé au niveau des îlots humains, alors que les autres récepteurs opioïdes ne sont pas exprimés. Donc ça, on l'a confirmé. Mais la grande nouveauté, et c'est là où je me suis dit, c'est pour ça qu'il est passé sous les radars, c'est qu'OPRD1 n'est pas exprimé dans les îlots murins. C'est-à-dire, c'est quelque chose de spécifique à l'homme. L'expression d'OPRD1 dans les îlots, c'est spécifique à l'homme. Donc, les modèles de souris à l'époque, parce que j'imagine qu'ils ont fait plein de modèles de souris, quand ils ont vu ces... Ils ont analysé les opioïdes récepteurs en long, en large et en travers dans les modèles de souris. Mais la souris OPRD1, c'est sûr qu'on n'allait pas voir grand-chose parce qu'elle n'exprime pas OPRD1 dans les îlots. Et en plus, on voyait un enrichissement aussi d'OPRD1 dans les cellules bêta. Donc, c'est celles qui sécrètent l'insuline. Après aussi, on a pu collaborer avec Myriam Knop en Belgique où on a vu que l'expression d'OPRD1 était diminuée dans les îlots issus de donneurs avec un diabète de type 2. Et vous voyez aussi que les traitements liés au diabète de type 2 diminuent l'expression d'OPRD1 dans les îlots pancréatiques humains. Et ensuite, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on a vu ensuite, c'est qu'on a utilisé des modèles de cellules bêta humaines ainsi que des îlots. On a utilisé des îlots humains issus de donneurs, donc de donneurs décédés. Et on voit que l'antagoniste, en fait, de notre delta, il augmente de manière significative la sécrétion d'insuline. Et en fait, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait en fait un effet basal du naltrindol, de l'antagoniste. Et en fait, quand on voit ça dans les récepteurs couplés aux protéines G, c'est qu'on se dit qu'il y a un système intrinsèque qui, parce que là, normalement, quand on analyse un antagoniste, il faut mettre l'agoniste pour voir l'effet de l'antagoniste. Et là, l'effet de l'antagoniste seul marche. Donc, on s'est dit qu'il y a peut-être un système opioïde dans les îlots pancréatiques humains, eux-mêmes. Donc, on a commencé à regarder quid de l'encéphaline. Encéphaline, c'est un opioïde endogène qui cible avant tout les deltas. Mais le précurseur de l'encéphaline n'est pas exprimé dans les îlots pancréatiques humains. Donc, on a enlevé cette hypothèse. Ensuite, on s'est intéressé à la dynorphine, qui est un autre opioïde endogène. Et là encore, le précurseur de la dynorphine n'est pas du tout exprimé dans les îlots pancréatiques humains. Et enfin, on a trouvé un précurseur potentiel, c'est POMC, qui est le précurseur de l'endorphine. Normalement, l'endorphine, ça va directement sur le kappa, mais vous voyez qu'il va aussi sur le delta et va sur le mu. Ça aussi, c'est dans les textbooks, on dit « Ah, l'endorphine, c'est le ligand du kappa opioïde récepteur. » Non, en fait, il peut aller de partout. Il va sur le delta, il va sur le kappa, il va de partout, en fait. Et le précurseur de l'endorphine, c'est POMC, et POMC est très, très fortement exprimé au niveau des îlots pancréatiques humains. Donc, on se dit qu'il y a peut-être un système opioïde qui est dans les îlots. Donc, en fait, on pense que l'endorphine est produite par les cellules bêta pancréatiques et que, in fine, après, elle revient sur le delta, donc sur son récepteur delta, le DOP ici, ce qui permet en fait de diminuer la sécrétion d'insuline. Donc, on pense qu'il y a une boucle au niveau des îlots humains. Donc, ça, c'est toute l'hypothèse sur laquelle on travaille aujourd'hui au laboratoire. Donc, j'ai essayé de vous convaincre. Donc, OPRD1, c'est un nouveau gène dans ses formes oligogéniques de diabète. Donc, j'espère vous avoir convaincu que la génétique, ça permet d'ouvrir des portes en termes physiopathologiques, et notamment quand on analyse des variants rares. L'analyse de variants rares permet réellement de trouver des liens de causalité entre un gène et une maladie, et finalement après de pouvoir développer des nouvelles cibles thérapeutiques. Il y a un Nature assez récent qui a montré que quand on a une cible trouvée impliquée dans les formes monogéniques, on a 10 fois plus de succès de développer une cible thérapeutique efficace. Quand on est sur les formes polygéniques, on a 3 fois plus de succès. Mais comme je vous ai dit, c'est parce que c'est dû au fait que association ne signifie pas causalité et que parfois on peut se louper de cible. On n'analyse pas la bonne cible issue de GWAS. Mais sur les formes oligogéniques, moi je considère qu'aussi on a 10 fois plus de chances, puisque là on va vraiment identifier la causalité entre le variant et la maladie. Et merci pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.